Nous aimons vous rappeler régulièrement dans notre quotidienne que la Silicon Valley n'est pas une fin en soi, qu'il y a d'autres puissances numériques, et nous partageons régulièrement des nouvelles, par exemple de la Chine. De temps à autre, on arrive même à parler de l'Inde. Dernièrement encore, on a fait le portrait du DG France de Freshworks, mais il y a encore des trous dans notre raquette. Je pense notamment à l'African Tech dont on parle trop peu, voire pas du tout. Alors pour en parler, on va se rattraper et j'accueille Samir Abdelkrim, chroniqueur pour Le Point, entrepreneur et auteur. C'est l'expert francophone de l'innovation africaine. Ensemble, nous allons analyser le potentiel de ce continent, la culture du numérique dans ces dizaines de pays et la leçon qu'on peut en tirer pour un pays comme la France. Vous êtes bien sur Culture Numérique, le podcast de Siècle Digital. Allez, go!
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour Samir.
Bonjour Ambroise.
Je l'ai dit en intro, l'Afrique subit un manque de considération. Comment l'expliques-tu ?
Bah, je pense que, et ça on le voit très bien à l'aune du Covid, on est trop habitué à une couverture que moi j'appelle afro-pessimiste du continent africain. Et quand on regarde aujourd'hui, vous mentionnez justement le paradigme de la Silicon Valley, quand on regarde aujourd'hui l'innovation africaine, on voit qu'il y a l'émergence de quelque chose de totalement nouveau qui échappe quelque part aux grilles de lecture que l'on connaît lorsqu'on analyse par exemple les écosystèmes de San Francisco ou de Londres ou de Paris. Et on voit que l'African Tech et que l'innovation africaine et que les innovateurs du continent africain, ils commencent à sortir un peu de l'ombre, de cette ombre de la Silicon Valley pour quelque part à la fois bâtir leur propre destin mais aussi proposer un modèle alternatif, je dirais, au monde avec un Internet et un digital beaucoup plus inclusif, beaucoup plus tourné vers les problèmes fondamentaux des populations. Et on voit se déployer aujourd'hui dans la e-santé, comme dans d'autres secteurs comme l'éducation, l'agriculture, l'énergie, etc., etc.
En tout cas, cet oubli fréquent de l'African Tech, on ne peut pas te le reprocher, clairement. Tu as parcouru plus de 30 pays d'Afrique en 4 ans pour observer l'innovation africaine. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire cette expérience ?
Alors, tout simplement, ça rejoint ma première intervention, c'est qu'il y avait vraiment cette caricature, je dirais, de ce qui se passait sur le continent et c'est la raison pour laquelle j'ai fait un travail de recherche que j'ai commencé modestement en 2013 par un petit crowdfunding dont l'objectif était de financer une expédition dans, au début c'était assez modeste, dans quelques pays, quelques écosystèmes africains, principalement d'ailleurs en Afrique de l'Ouest. Cette levée de fonds a été un succès sur Ulule et je suis parti aussitôt avec ma casquette de blogueur, mon sac à dos, plein d'énergie et j'ai commencé d'ailleurs par Dakar en immersion dans l'écosystème qui était en plein pré-boom à l'époque en 2014, avec les premiers incubateurs, les premiers coworking space, les premières startups qui commencent à faire parler d'elles, parce qu'il faut vraiment garder à l'esprit une chose, c'est qu'à l'époque, on n'en parlait quasiment pas. On ne parlait quasiment pas de startups africaines. On était au moment de l'essor fulgurant de la French Tech, mais on était encore très loin d'un intérêt de l'écosystème ici en France pour ce qui se passait au niveau africain. Et ce travail de recherche, qui devait durer quelques mois, finalement m'a dépassé, parce qu'il a duré plus de 3 ans sur le continent. Donc effectivement, j'ai fait beaucoup de terrain en Afrique anglophone aussi, en Afrique australe, en Afrique du Nord. Au total, effectivement, énormément de pays et énormément de contenu créé. Donc, j'ai été repéré par Le Monde à l'époque. C'est le rédacteur en chef Afrique, Serge Michel, qui m'avait contacté, donc j'ai commencé à chroniquer pour Le Monde régulièrement, à faire beaucoup de focus sur ce qui se passait sur le terrain. J'ai aussi écrit pour Les Échos, pour le HuffPost, pour mon blog Startup Bricks, et de fil en aiguille, j'ai commencé à écrire plusieurs centaines d'articles qui, lorsque je suis arrivé en 2017, m'ont donné l'idée d'essayer de donner du sens à tout ça, de l'inscrire dans un temps peut-être un peu plus long, et aussi d'essayer de voir en termes de perspective d'où on vient et où est-ce, d'où on vient et où est-ce que va cette innovation africaine, comment cette innovation africaine se projette elle-même par rapport au GAFA. Et ça a donné un livre, Startup Lions, que j'ai publié en 2018, que j'ai écrit en
septembre. Ouais, on va en parler ensemble de ce livre, en effet, ce qu'on apprend, et notamment ce terme d'innovation organique. Mais avant cela, la première chose qui vient à l'esprit quand on parle de numérique, c'est la qualité des infrastructures, que ce soit l'électricité, des choses en France auxquelles on ne pense même pas. On se dit oui, de toute façon, je vais brancher mon ordi, puis c'est parti. Que ce soit la fibre optique, que ce soit les serveurs. On ne peut pas dire qu'en Afrique, les entrepreneurs du web profitent de cela.
Alors oui, il y a un chapitre de mon bouquin que j'appelle From Scratch, c'est-à-dire que vraiment ça se crée à partir de rien. Et vous parlez d'infrastructure, vous parlez effectivement de la question de la data, la question du prix, la question de la couverture internet, la question de l'électricité, hein, parce que c'est une réalité. Hein, dès qu'on sort un peu des gros centres urbains, on est dans une immensité off-grid, hein, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans du non raccordé au réseau traditionnel, et c'est là que justement l'innovation se déploie, hein, c'est-à-dire que quand on parle, juste un exemple, mais quand on parle d'inclusivité par l'accès à l'énergie, eh bien ce sont des startups qui font quelque part le boulot des États. Et là, je reprends l'exemple du Kenya, mais les bidonvilles de Nairobi qui ne sont pas raccordées au réseau traditionnel. Ce sont des startups comme Mkopa, par exemple, et plein d'autres qui apportent de manière agile avec la technologie mobile et avec justement cette agilité que permettent les startups, permettent aux foyers et aux communautés qui vivent dans ces bidonvilles délaissées de tout, et bien d'être raccordés à l'énergie solaire. Et ce qui permet d'ailleurs, en effet, des multiplicateurs, et bien de générer du business, parce que du coup, ça permet de créer des entreprises, ça permet, ça paraît tout bête, hein, mais le simple fait d'avoir une ampoule électrique à la maison, ça permet aux enfants, ça a été mesuré, hein, ça que j'explique dans mon bouquin, et bien de faire leurs devoirs et donc d'améliorer leurs résultats à l'école. Ça permet aussi de sortir, d'évacuer du foyer les ampoules à pétrole qui, dans un pays comme le Ghana, déclenchent chaque année des dizaines de milliers de morts par intoxication. Donc voilà, c'est le pouvoir concret de l'innovation africaine dans la vie du quotidien. Là, j'ai pris l'exemple de l'énergie, mais si on prend par exemple en termes d'infrastructure, moi le terme que j'emploie, c'est de, quelque part les startups arrivent. Alors c'est vrai que c'est compliqué parce que en France on va pas dire que c'est le boulot des entrepreneurs de faire le job de l'État, le régalien, il est là pour quelque part apporter les services publics, les créer et les rendre accessibles à tous. Lorsqu'on est dans des pays fragiles où il y a la corruption endémique, où les services publics ne fonctionnent pas bien, où l'État et le régalien souvent répond aux abonnés absents, les entrepreneurs, et c'est pour ça que c'est vraiment un pouvoir qui est apporté par le digital, les entrepreneurs, les start-upers africains utilisent la tech pour apporter de nouveaux services digitaux inclusif, de créer de la valeur digitale qui apporte des services aux populations. Et par exemple, puisqu'on est en période de Covid, donc prenons cet exemple, si on prend par exemple le cas de la santé, bien entendu, alors moi je suis allé dans des endroits absolument improbables en Éthiopie, nord de route de la capitale Addis Abeba, pour me rendre dans une zone rurale très reculée d'ailleurs en période qui était très troublé politiquement en pays Oromo, à Gimbi, pour voir comment une start-up déploie une solution auprès de même pas de villes, de hameaux, de petits villages complètement isolés, pour réduire le taux de mortalité infantile et maternelle. J'ai vu aussi la même chose au Cameroun, hein, je me suis rendu dans des endroits qui aujourd'hui malheureusement sont très difficiles d'accès politiquement, mais à Bamenda par exemple, zone anglophone, où les services publics sont extrêmement dépourvus de moyens, et là aussi ce sont des startups qui développent avec une technologie maker, fabriquent avec des imprimantes 3D des microscopes digitaux qui par exemple sont utilisés par les professionnels de santé sur le terrain pour réaliser des biopsies auprès des femmes pour détecter le cancer, notamment le cancer du sein, et qui d'ailleurs ont sauvé des centaines de vies au bout de quelques mois d'utilisation, avec toute une technologie de prise de photos, de vidéos directement envoyées sur le cloud et qui sont ensuite analysées par les meilleurs spécialistes, les meilleurs cancérologues d'Afrique. Eh bien, ces solutions qui changent concrètement le quotidien, ces solutions finalement apportent un service que les États ne sont pas en mesure d'apporter. Et on peut dire que, et c'est vraiment une spécificité de l'innovation africaine, que la multiplication des contraintes, en France, on pourrait considérer qu'elle nous ferait baisser les bras, ou en Europe du moins, pas qu'en France, en Europe, eh bien en Afrique, elles sont source justement d'innovation. Et plus les contraintes sont fortes, plus l'urgence à innover, parce qu'il n'y a pas d'autre choix, plus l'urgence à innover est pressante. Et c'est véritablement ça une des spécificités.
Alors, ça, je le comprends bien. Et comme tu dis, c'est vraiment les pressions du quotidien. Mais il n'y a pas que le quotidien. On le sait bien, quand une scène technologique doit se développer avec ses acteurs, avec ses entrepreneurs, il y a aussi besoin de liquidité. Toute la tech, qu'elle soit européenne, qu'elle soit américaine, est sous perfusion constante de cash. On entend parler tous les jours de levée de fonds, de rachats à coût de millions de dollars. Est-ce que en Afrique, il y a aussi ce financement qui existe? Est-ce qu'il y a des investisseurs qui sont prêts à y aller?
Alors oui, ça, on peut pas dire autrement. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Le financement, l'accès au financement, c'est le nerf de la guerre. Que ce soit à San Francisco, à Paris, à Tunis ou à Yaoundé, c'est vraiment ça qui est capital. Ce que l'on observe, et maintenant, on commence à avoir des chiffres assez précis qui permettent de mesurer les tendances et qui permettent d'observer qu'il y a eu quand même une accélération assez forte du niveau, alors d'une part du pipeline, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus, il y a un pipeline de plus en plus qualifié de projets qui passent à l'échelle de plus en plus intéressant pour les investisseurs internationaux notamment, mais aussi on voit une multiplication des tickets pris par les investisseurs, et si bien que lorsque l'on regarde par exemple les chiffres il y a 5 ans, et les chiffres de 2019, alors je mets entre parenthèses 2020, le contexte est particulier avec le Covid, je pense qu'on commencera à analyser les premières tendances d'ici quelques mois. Mais si on regarde entre 2000, il y a 5 ans et 2019, il y a une multiplication par 14 du niveau des levées de fonds. On est passé de quelques centaines de millions à l'échelle d'un continent, je le rappelle, donc on parle quand même de 54 pays, 200 millions, pour prendre ce chiffre-là, 200 millions de dollars, c'est ce qui se lève en un week-end dans la Silicon Valley. Donc là, on passe de ce niveau-là, qui est quand même somme toute très modeste, à plus de 2 milliards en 2019. Et ça, c'est Partech Africa, qui est vraiment le baromètre de référence de l'investissement tech en Afrique, qui est le fonds de Tidjane Dem, qui est l'ancien directeur de Google en Afrique. Partech Africa a mesuré que l'an passé, les startups africaines ont franchi la barre des 2 milliards de dollars de fonds qu'elles ont réussi à attirer dans leur capital auprès d'investisseurs. Donc on est sur une exponentielle, c'est-à-dire que chaque année, le niveau des levées de fonds double. Ça veut dire aussi que pour beaucoup d'investisseurs, une startup africaine qui résout un problème africain avec toute son agilité, avec toute son innovation pour résoudre ces problèmes fondamentaux que je mentionnais précédemment, accès à l'électricité, accès à l'énergie propre, accès à l'éducation, cette solution a le potentiel, et c'est le pari qui est pris par les investisseurs, a le potentiel de répondre aux mêmes problèmes dans un autre pays émergent, par exemple en Inde. Et on voit par exemple que M-Copa, que j'ai cité tout à l'heure, commence à se développer un petit peu en Asie, parce que l'innovation africaine, elle a aussi ce potentiel de se globaliser, et les solutions vertueuses qui naissent aujourd'hui en Afrique pourraient répondre aux mêmes problèmes de sécheresse, d'illettrisme, d'accès à l'éducation et de déserts médicaux dans d'autres régions du monde. Et c'est la raison pour laquelle, en tout cas, c'est le pari que font aujourd'hui de plus en plus d'investisseurs, qui aujourd'hui mettent de plus en plus volontiers des tickets dans des startups africaines, parce qu'elles se disent que c'est là l'avenir de l'innovation, et c'est véritablement là qu'en Afrique se dessine une nouvelle manière d'aborder les problèmes par le digital, avec un potentiel de passage à l'échelle très important.
C'est intéressant ce que tu dis, parce que évidemment, c'est pas des choses qu'on imagine forcément, et la logique est bonne. En 2017, tu le disais tout à l'heure, tu publies ton livre Startup Alliance, préfacé par Xavier Niel, qu'on ne présente plus, et Tidjane Demé, donc ancien CEO de Google Afrique francophone, dont tu viens juste de parler à l'instant. Et il est maintenant cofondateur de Partech Africa. Tu y parles d'innovation organique dans ce livre. Qu'entends-tu par là?
Bah, l'innovation organique, en fait, ce terme est le fruit de dizaines et de dizaines d'échanges que j'ai eus avec des acteurs de terrain, à Lagos et aussi beaucoup au Kenya. Et lorsque en 2016, j'ai rencontré dans un township de Cape Town l'un des tout premiers consultants de M-Pesa. Donc M-Pesa, c'est vraiment l'application phare du continent africain, c'est le paiement mobile, on estime qu'à peu près 40% du pays, l'équivalent de 40% du PIB du Kenya est processé par cette seule application, qui est aujourd'hui, avec un taux d'équipement des populations qui dépasse les 20 millions d'utilisateurs. Il expliquait que cette innovation, son usage n'était absolument pas prévu pour faire de l'échange d'argent, du paiement. C'était prévu, c'était une application techno, un peu bureaucratique, qui était utilisée pour permettre à des agences de microcrédit de faire des prêts à des PME. Donc voilà, c'était assez normé, c'était assez, assez prédéfini. Et ce sont les populations, lorsque ce produit est arrivé sur le marché, les populations s'en sont emparées et l'ont complètement adapté à leurs problèmes, de manière organique. Elles ont collé à leur réalité. Et c'est le fruit d'échanges, c'est un mot qui revenait souvent, que ici on essaye d'avoir des solutions qui sont vraiment qui nous correspondent, qui sont vraiment liées, qui sont vraiment issues de nos réalités, de manière organique. Et c'est vrai que cette innovation organique, cette manière, alors que moi j'appelle un peu, c'est pas vraiment du hack, c'est des citoyens hackers, mais cette manière de vraiment s'approprier les technologies, d'en détourner les usages pour en faire un usage vraiment qui correspond aux besoins des populations. Et quand je parle des populations, on parle de centaines de millions et pour revenir à une question précédente, on a encore aussi à des centaines de millions d'Africains qui ne sont pas encore connectés à Internet. Ce qui semblerait juste hallucinant quand à l'échelle de l'Europe, aujourd'hui tout le monde est connecté, et gratuitement en plus, quasiment. Il suffit de marcher dans la rue, on peut se connecter à la Wi-Fi. Donc cette innovation organique, c'est une innovation qui jaillit en fait du peuple et qui a vocation à répondre le plus justement possible et le plus rapidement possible, faut dire.
Tu faisais clin d'œil tout à l'heure, Samir, justement, à cette innovation organique, parce qu'à force le respect, on sait qu'il y a quand même pas mal d'entrepreneurs européens qui auraient déjà jeté l'éponge depuis longtemps dans les conditions dans lesquelles entreprennent les personnes africaines. De quels éléments pouvons-nous nous inspirer dans la gestion de l'innovation en Afrique et qu'on pourrait ramener justement à notre société et où on pourrait se dire, si on avait cette même force, cette même capacité que cette scène numérique, technologique africaine, on lèverait des montagnes.
Moi, je pense que l'une des caractéristiques qui fait qu'aujourd'hui, si on recontextualise cette question avec l'actualité Covid, clairement, tous les entrepreneurs européens sont impactés. Clairement, le Covid est vraiment en train de peser durement sur le quotidien des startups et des startups africaines, et pas que, avec un vrai impact sur les bons de commande, sur la trésorerie, sur les levées. Il y a des levées qui ont avorté, mais il y a aussi des levées qui ont été confirmées, par notamment des levées dans la e-santé, quand t'es confirmé pendant le Covid, parce que ou dans la digitalisation, ou dans la fintech, parce que tout simplement le Covid a permis aussi d'accélérer des tendances. Mais il y a des morts, et il y a un taux de mortalité qui augmente, et quand on regarde les derniers chiffres, par exemple, qui sont sortis, on a regardé ça de près, par exemple, au Maroc, pour citer simplement ce pays, 70% des startups ont un impact direct sur leur trésorerie, de manière sérieuse même, du fait du Covid. Et la plupart perdent des clients, des bons de commande. Mais elle ne jette pas l'éponge. Et la caractéristique qui vraiment, selon moi, caractérise, c'est qu'à le dire, l'entrepreneur et la start-up africaine, c'est la résilience. Et cette résilience, elle est due au fait que, tout simplement, la plupart de ces start-up, alors j'ai parlé des levées de fonds qui commençaient à se démultiplier, se sont développées quand il n'y avait pas de fonds. Et elles savent survivre, se développer, voire même grandir, en étant extrêmement économes en cash, en ayant un taux de cash burn très réduit, parce qu'elles sont nées comme ça, et parce que l'écosystème est apparu comme ça. Alors maintenant, c'est vrai que l'engouement des investisseurs va être impacté par le Covid, mais c'est un sentiment global, hein, ça ne concerne pas que le continent africain. La French Tech aussi va être impactée négativement par le Covid en termes de projection de levée. Mais il faut vraiment garder à l'esprit que l'état de résilience, que l'état d'esprit de résilience des startups africaines qui ont toujours su naître, se développer et affronter des obstacles avec, somme toute, toujours peu de moyens. Et encore une fois, je précise que 2 milliards, c'est pour un continent, c'est pas pour un pays, donc on est vraiment encore sur des niveaux assez faibles, font que, moi je suis assez confiant sur le taux de survie des startups africaines, parce que intrinsèquement et dans leur ADN, elles sont programmées pour affronter justement les contraintes et l'adversité, peut-être un peu plus que les startups européennes ou la French Tech, où là, il faut bien dire que c'est quand même incomparablement plus confortable entre le prêt garanti d'État, la banque publique d'investissement, tous les dispositifs qui sont à disposition, le bridge qui a été lancé par la French Tech, où là, il y a vraiment un vrai manteau protecteur, et tant mieux, hein, pour l'écosystème de la tech en France. Ces dispositifs n'existent pas aujourd'hui sur le continent africain. Ça n'empêche pas que ça m'empêche pas de considérer que ça ne veut pas dire pour autant que les startups africaines sont condamnées. Moi, je pense que une partie va être fortement impactée, voire mourir après le Covid, mais une partie va sortir renforcée parce que, et là, c'est une trend que l'on observe et qui est très importante. Le Covid, si le Covid peut avoir au moins un aspect positif, si on observe que quelque part, elle accélère, elle catalyse les grandes tendances de fond. Et par exemple, je parle des fintech. Aujourd'hui, ça peut sembler très loin ici, hein, mais le Kenya, il y a 3 mois, par la voix de son président et de sa banque centrale, a totalement généralisé le paiement sans contact. Et mieux, le paiement mobile a été érigé en geste barrière. Alors ici en France, le geste barrière, on connaît, il y a le gel, le masque, la distanciation, mais on n'utilise pas encore, que je sache, le téléphone pour faire ces transactions. Personne. Ce matin, j'ai pris un café au bar à côté de la rue, j'ai payé en cash, personne n'a utilisé son téléphone. Et dans les pays africains, on est déjà au téléphone. Et on se débarrasse du cash. Donc il y a quand même ce coup d'avance, et je pense que une partie de la révolution de demain, des finances de demain, se joue là, et il y a un retard en Europe par rapport à ça. Et je pense que quelque part le Covid va permettre aussi de positionner le continent africain comme étant un leader de demain sur la télémédecine, sur la e-santé. Et d'ailleurs, les dernières levées de fonds enregistrées de plusieurs millions, hein, de 10 millions, par exemple au Ghana avec M-Pharma, ou deux startups de la e-santé nigériane qui ont levé chacune 10 et 15 millions il y a 3-4 semaines, hein, en plein dans le Covid, montrent que les investisseurs ont eu la confirmation avec le Covid que la e-santé sera le grand secteur de demain en Afrique.
Donc à surveiller de près. Tu es aussi fondateur d'Emerging Valley, Samir, qui se tiendra en décembre prochain. C'est le sommet international qui attire à Marseille les investisseurs, les startups et les écosystèmes numériques africains et émergents qui veulent renforcer leur attractivité à l'international, développer leurs relations business, accélérer leur impact à l'échelle globale. On peut que vous inviter à vous, auditeurs, d'aller y faire un tour, hein. Vous retrouverez toutes les infos sur le site d'Emerging Valley. Merci Samir pour cette conversation. Je suis sûr que ça aura éveillé la curiosité de nos auditeurs. On ne peut que recommander de lire ton livre Startup Lions, dont on a parlé tout à l'heure, pour mieux saisir les enjeux de l'African Tech. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre podcast de culture numérique, de retrouver nos news sur siècledigital.fr. Et on se dit à très bientôt, Samir.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.